parce que ce matin, tu illustres parfaitement ce que je vais dire, en quelque sorte. Je vais vous parler de Gédéon et je vais commencer par vous dire, à vous tous, l'Éternel est avec vous, combattant courageux. Amen. C'est ce que l'ange du Seigneur a dit à Gédéon lorsqu'il se montra à lui. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 12. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux, ou ailleurs, combattant courageux. En fait, c'est un peu le cycle qui se termine. J'ai parlé il y a une quinzaine de Samson. Sujet hautement difficile. Pourquoi ? Parce que Samson, c'est un personnage qu'on met un petit peu pour l'école du dimanche. D'ailleurs, Gédéon aussi. Avouez que c'est un sujet où vous vous dites toujours qu'il y a plein d'images qui vous viennent. Gédéon, Samson. Alors Samson, c'est cet homme qui a tellement de force. Et on a bien vu que Samson, c'était en fait quelqu'un qui avait effectivement été utilisé par Dieu, mais qui a présumé de ses forces. Et finalement, Dieu l'a rattrapé au bon moment. Et vous savez ce qu'il y a de commun entre Gédéon et Samson ? C'est que tous les deux sont dans la même liste, la liste de Hébreux 11, 32 à 35. C'est une liste de héros de la foi. Mais est-ce que vous savez que vous aussi, vous êtes sur cette liste ? Oui. La différence, c'est que vous attendez peut-être aujourd'hui que l'ange de l'Éternel vienne vous voir à la maison. Bien sûr, vous allez bien l'accueillir, hein, ça c'est normal. Mais vous attendez qu'il vienne vous dire, allez, lève-toi, va, j'ai une mission pour toi. Et vous oubliez une chose, c'est que depuis que vous êtes à Christ, le Saint-Esprit est en vous et qu'il vous dit des tas de choses. Encore faut-il l'entendre. Et je voudrais vous relire juste donc ce passage de Hébreux 11, 32-35. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait. C'est Paul qui parle. Pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Imaginez, Gédéon, dont on va parler maintenant, il est au rang de ces gens-là. C'est pas juste un personnage un peu rigolo ou un peu, on va dire, peureux. Comme Samson est un personnage qui a l'air de déménager tout, eh ben, ils sont au rang de David, de Barak, de Samuel et de tous les prophètes. Au verset 33, « Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. » Et ça, ça nous concerne tous. Moi, je me sentais plus concerné par Samson. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'était parce qu'un prophète de passage m'avait dit que j'étais concerné par Samson. Mais j'ai appris, au travers de la vie de Samson et de ma propre vie, qu'à certains moments, on pouvait présumer de ses forces et qu'on devenait tout à coup très faible. Rappelez-vous dans l'histoire de Samson qu'à un moment donné, après qu'il ait tué 1000 Philistins, tout à coup, il a eu soif et il a crié à Dieu en disant qu'il allait mourir. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, il faut lire entre ces lignes, voir les petits passages où on se rend compte que ces hommes, en fait, ils étaient faibles dans leur force. Et pour recevoir la force, ils avaient besoin que le Seigneur soit avec eux. Voilà, revenons à l'histoire de Gédéon. Donc Gédéon, dans quel contexte sommes-nous au moment où Gédéon est visité ? Alors Gédéon, c'est le plus jeune d'un clan parmi les plus faibles de sa tribu. Il va avoir trois interventions de Dieu, il fera deux objections et une demande d'un signe. Et je vais vous lire ce passage pour vous dire dans quelle situation était le peuple à ce moment-là. C'est dans Juges 6. Les Israélites font tout ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël, et à cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes, dans les endroits difficiles à atteindre. Et chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Madianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent les produits des champs jusqu'à près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère et ceux-ci crient vers le Seigneur. Grande différence par rapport à l'histoire de Samson que je mets en parallèle, c'est que au moment de l'histoire de Samson, ils sont même plus à crier. Ils sont carrément, quelque chose est détruit dans leur volonté. Ils auraient peut-être dû être là quand Matthée a prêché sur la volonté. En tout cas, ils n'avaient plus aucune volonté qui allait dans le sens d'obéir à Dieu. Du temps de Gédéon, c'est un peu autre chose. Mais qu'est-ce qu'il est dit en Juges 6, verset 7 ? Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer des Madianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, le Seigneur Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libéré des Égyptiens et de tous ceux qui vous maltraitaient. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu, vous qui habitez au pays des Amorites. Ne servez pas leur Dieu. Ne servez pas leur Dieu. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Donc ils en sont encore au stade de crier à Dieu, mais ils n'entendent pas ce que Dieu leur dit. Ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas. Et à ce moment-là, Dieu a une intervention différente. Il va voir le plus faible parmi les clans les plus faibles, la tribu la plus faible. Il va voir quelqu'un qui est peureux, quelqu'un qui se cache. Voilà ce qu'on dit de notre ami Gédéon. En fait, il n'est pas différent de chacun de nous à certains moments de notre vie. Il avait essayé de se mettre... Vous vous rappelez le contexte que je viens vous donner, ce contexte vraiment horrible. Il avait essayé de se mettre un peu de blé de côté. C'est pas de l'argent le blé, là c'est du vrai blé. Hein. Oui. Mais l'ange de l'Éternel s'est adressé à lui. Il faisait ça en cachette, il faisait ça là où on écrase le raisin, dans le pressoir, dans un endroit qui, pour fausser un peu, pour éviter que les espions voient qu'il avait encore quelque chose à faire, quelque chose à manger. Et donc cet ange vient et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Or, Gédéon n'était pas vaillant, et encore moins un héros. Il battait du froment et se préparait à fuir, ce qui ne l'a pas empêché l'ange de le nommer vaillant héros. Et croyez-moi, Dieu aujourd'hui vous dit, si vous l'écoutez, il vous dit, vous êtes tous des vaillants héros. Et certains sont à des stades où ils ont déjà commencé à obéir, à aller. C'est pour ça que ça me parlait beaucoup quand Christine nous raconte ce qui s'est passé dans ce pays où elle était. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir des grandes forces, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin. On peut même être dans un pays où on considère que les femmes n'ont pas beaucoup de droits, où elles doivent être mariées pour avoir une certaine valeur. Eh bien non. Dieu ouvre des portes qu'on n'arriverait pas à ouvrir tout simplement parce que c'est impossible pour nous. Et pourquoi il le dit aussi vaillant héros ? Et pourquoi il nous dit à nous vaillant héros ? Pourquoi il te dit à toi, vaillant héros ? Parce qu'il a toujours une meilleure opinion de nous que celle que nous avons de notre propre valeur. Soyez-en certains. Il nous voit non à travers du filtre de nos échecs passés, mais au travers du prisme. Vous savez la différence entre un filtre et un prisme ? Quand vous mettez un filtre, vous voyez de moins en moins clair. Quand on a des filtres pour filtrer la lumière, en général, c'est plus sombre. Le prisme, au contraire, ça a tendance à multiplier, à montrer des tas de facettes. Et donc, il te regarde, toi, au travers du prisme de futures victoires qu'il en réserve pour toi. Amen. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quelque chose qui est tout à fait naturel. Il remet en cause les affirmations de l'ange en lui démontrant que ce qu'il affirmait n'avait rien à voir avec la réalité ambiante. Qui irait lui jeter la pierre alors qu'avec cette affirmation, il ne pouvait que dire « mais c'est pas possible ». Tu t'adresses à moi, mais va dans cette tribu ou va voir tel homme, mais pas moi. Il lui répond, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Sa conclusion, elle est désabusée. Il nous dit à un moment donné, le Seigneur nous abandonne. Il dit, c'est au verset, donc chapitre 6, verset 13, « Maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut nous livrer à des Madianites, entre guillemets, définitivement ? Non ? Mais l'ange de l'Éternel, donc Dieu, ne l'écoute pas, il ne répond pas à son objection. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne un ordre de mission. Il passe par-dessus ce qu'il venait de dire. Il n'essaye pas de se justifier. Et il dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madian, de Madian. » Il lui dit, « Va. » Mais on sait que Gédéon était plein de doutes, d'innombrables doutes. Il n'y en a que deux qui nous sont racontés. Mais on voit bien que c'est un homme, quand il va agir, il est encore plein de doutes. De quelle force disposait Gédéon ? Pratiquement aucune. Mais le Seigneur ne s'intéressait pas à sa force. Il ne s'intéresse pas à notre force. Et c'est ce qu'on croit, parce que dans notre société, on ne s'intéresse qu'à notre force. Qu'est-ce que tu as ? Force financière. Qu'est-ce que tu as ? Force physique. Qu'est-ce que tu as ? Possession. Héritage. Famille. Donc tous ceux qui n'ont pas ça, ils disent, bon, je viens là, j'écoute tout ça, et je vais vous dire, il a l'honnêteté de lui dire que tout ça, c'est des salamalek, des trucs pour nous rassurer, des belles histoires. Comme je disais avant, des histoires pour l'école du dimanche. Mais à l'école du dimanche, est-ce qu'on ne prépare pas la vie d'adulte ? Est-ce que c'est aux enfants peut-être de nous raconter ces histoires ? De nous dire, l'histoire de Gédéon, elle est vraie. Même l'histoire de Samson. Et quand on m'a dit ça à propos de Samson, que j'avais un rapport dans ma vie avec Samson, vous savez, quand on vous dit, voilà, vous êtes dans cette... Quelqu'un qui ne me connaissait pas, hein, je vous rassure tout de suite, un prophète qui ne me connaissait pas. Qu'est-ce que j'ai pensé pendant des années ? J'ai dit, il y a une erreur là. Samson, mais je le déteste, cet homme, c'est pas possible, quoi. Je pensais, c'est un homme à femme, c'est quelqu'un qui se fait trahir, c'est quelqu'un qui a des forces, mais qui les utilise mal, pour faire des trucs un peu débiles. Mais Gédéon, c'est pas mieux. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, mais attends, je suis nul. Est-ce que vous aimez, vous, autour de vous, des gens qui vous disent, je suis nul, je sais rien faire ? Est-ce que vous l'embaucheriez ? Quelqu'un qui vous dit, je sais rien faire, voilà. Je ne suis même pas allé à l'école parce que c'est même pas la peine, je suis trop bête. Mais est-ce que Dieu va s'intéresser à ce moment-là ? Oui. Qu'est-ce que cherchait Dieu ? Il cherchait qu'une chose, il ne cherche qu'une chose pour nous, avec nous. C'est notre obéissance. Mais qu'est-ce qu'il faut pour obéir ? Ben, faut recevoir une instruction. Donc, pour recevoir une instruction, il faut écouter. Et là, l'ange a été clair. Donc là, je vois tout de suite vos objections. Il y avait un ange en face de lui qui lui a parlé français, enfin, disons, peut-être pas français pour lui, mais la langue du pays à ce moment-là. Et il lui a dit, va. Mais est-ce qu'il n'y a pas des tas de va dans votre vie depuis un certain temps ? Je sais que certains d'entre vous sont déjà en chemin, ils ont obéi. Et donc, ce que le Seigneur leur demande souvent, c'est de témoigner. C'est à ça que ça sert les témoignages. C'est une forme de dire « va ». Parce que tu vois, moi il m'a envoyé, je suis allé, et il s'est passé des choses. Des choses merveilleuses, des choses incroyables. Et malgré ces innombrables doutes, Gédéon a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé. Vous vous rendez compte ? Cet homme qui objecte de façon tout à fait... Je vais vous lire les deux objections principales. Il dit, pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes malheureux ? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions ? Vous ne trouvez pas qu'il est gonflé ? Est-ce que vous osez dire ça à Dieu ? Dites-lui. Vous avez le droit de lui dire, je ne suis pas d'accord. Faites-lui confiance pour que il vous encourage à passer outre. Maintenant, le Seigneur nous a abandonné, il nous a livré aux Madianites. Deuxième objection, après que l'ange lui ait dit, va. Il lui dit d'ailleurs, va avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Et pour certains d'entre vous, ils ont déjà entendu ce va. Mais la proposition était tellement grande qu'ils se sont dit, non mais, ça ne peut pas être vrai. Il y aurait plein de témoignages à vous donner. Là, on pourrait mettre plusieurs semaines tous les témoignages de ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Et moi, il m'en vient là, juste un de... Les lectures que j'avais, comme j'étais dans les affaires, une des lectures que j'avais, c'était souvent pour des hommes de Dieu qui ont été des grands... des hommes de Dieu dans les affaires, quoi. Et je pense à Le Tourneau. C'est quelqu'un qui a vécu dans les années 30 à 50. C'est quelqu'un qui a créé aux États-Unis ce qu'on appelle, vous savez, les scrappers, c'est-à-dire ces énormes engins qui faisaient les autoroutes. Et c'était celui qui a la première fois utilisé la soudure. Parce qu'avant ça, dans les grands engins, les choses très lourdes en métal, on utilisait les rivets. Tout ça, c'était inspiré par Dieu. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que Le Tourneau, ce qui m'avait touché, comme j'étais dans les finances, c'est qu'il donnait 90% de ses revenus à Dieu et il vivait très bien. Donc quand tu disais 11%, Le Tourneau, il était très loin. 90%. Ça ne veut pas dire que je vous dis aujourd'hui, donnez 90% et puis essayez de vivre avec 10%, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, sa foi était telle qui donnait 90% de ses revenus. Je suis en train de faire lire le livre de Le Tourneau, son histoire, quoi, par un frère qui est dans une cellule, mais qui cherche également dans cette direction-là, quoi. Mais voilà, c'était un Gédéon au début, Le Tourneau, c'était un Gédéon. Et ce qu'il a fait, c'est des choses extraordinaires. Il n'est pas aujourd'hui connu comme certains grands leaders, mais c'est quelqu'un qui, à ce niveau-là, a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon ? Il a obéi. Il a commencé par détruire les autels qui étaient dans la propriété de son père. Waouh ! Parce que, bien sûr, comme c'est dit d'ailleurs plus tôt, quand les reproches que fait Dieu, quand il dit « Mais vous ne m'avez pas écouté », ils ont été bien plus loin, ils ont même adorer les dieux de ceux qui les oppressaient. Alors bien sûr, Gédéon, et vous avez le droit de faire ça, il a agi de nuit, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de fanfaronner, par crainte de ses voisins. Il ne faut pas chercher non plus les coups. Mais il a obéi. Il a agi. Il a placé une toison devant Dieu. Il a demandé un signe. Ça aussi, c'est quelque chose qui est parfaitement logique. Parce qu'il était toujours taraudé par ses doutes. Lorsque le Seigneur lui a demandé de se rendre dans le camp de l'ennemi et de prendre son serviteur avec lui, s'il avait peur. Donc vous voyez, comme Dieu est bon, il sait qu'on a peur des fois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais vas-y avec ça. Vas-y avec ton voisin, vas-y avec ton frère, avec ton serviteur. Il est facile de voir alors qu'il était vraiment effrayé. Il a tout de même obéi. Et la dernière faveur que lui a fait Dieu, c'est qu'il entende dans un rêve ce que disaient les Madianites. Et il disait, oulala, il paraît qu'il y a quelqu'un là de très méchant, de très virulent, qui veut nous attaquer, il faut vraiment qu'on abandonne. Alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, et Dieu avait réduit le nombre de pour montrer vraiment à Gédéon que c'était lui qui aurait la victoire, c'est-à-dire Dieu, et pas ses propres forces. Alors je voudrais juste m'arrêter, on pourrait dire encore plein de choses, mais je voudrais m'arrêter sur une chose qu'il a dite, et qui est déjà fondamentale. Quand il a dit, maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites, et j'ai envie de paraphraser en disant, c'est sans espoir. Et là, tout ce qui est dit là par Gédéon, en réalité, ça vous paraît vrai, mais c'est un mensonge. Et dans nos vies, c'est en général ce qui vient en premier, c'est-à-dire on a plein de mensonges qui viennent. Des mensonges, comme disait Steve Backlund, c'est toujours un des leaders de Bethel. Il disait, c'est des mensonges dont il faut rire. Rire, oui. Et si j'avais un petit jingle, vous savez, comme à la radio, j'appuierais sur le bouton et on entendrait un grand rire. Et derrière cette affirmation, finalement, quand il dit à l'ange, ben non, écoute, franchement, c'est sans espoir. Il y a d'autres mensonges qui vont avec, qui sont plus ou moins exprimés. Alors, premier mensonge, cette situation, elle est impossible. Il n'y a pas de réponse à faire à ça. En tout cas, pas avec moi. La deuxième, je ne suis pas destiné à la victoire, je suis destiné à l'échec. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un mensonge qui traîne dans les têtes de tout un chacun. Je suis destiné à l'échec. Ensuite, troisième mensonge qui est derrière ce grand mensonge de « il n'y a pas d'espoir ». Mon indignité et mes mauvais choix me bloquent et bloquent toute solution. Quatrième mensonge. Ça n'existe pas des percées, des succès soudains, des victoires incroyables. Cinquième, je suis né pour rater tout le temps. Merci de rire, c'est ta vraiment raison. Oui, mais c'est risible, mais c'est comme ça que des fois on l'a en nous. Et dernier mensonge, mais ce n'est pas le plus innocent, si je ne vois pas Dieu agir de quelque manière à propos de ce dont on parle, là en l'occurrence c'était de délivrer de cette multitude d'ennemis, ça veut dire qu'il ne veut rien faire pour nous. Vous voyez? Si je ne suis pas délivré immédiatement, c'est que Dieu ne veut rien faire pour moi. Alors, quelle est la vérité ? Parce qu'il serait temps, on n'a pas vraiment ri de ces mensonges, on prendra le temps après de rire, de bien rire, et surtout quand on aura obéi. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune raison d'être désespéré. Aucune raison, parce que tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Rappelez-vous, je vous donne 5 exemples rapidement. Rappelez-vous Abraham, qui avait 99 ans et qui avait une femme aussi âgée et qui a quand même eu un fils. Et qui, malgré sa faute d'avoir fait un fils de précaution avec une servante, parce que sa femme apparemment était stérile. Deuxième exemple, Joseph. Alors, ce que je vous ai dit là, c'est dans Genèse 17 à 21. Joseph, qui était haï par ses frères, qui était jaloux, mis dans un puits, vendu comme esclave, accusé ensuite plus loin de viol, qui s'est retrouvé en prison, tout ça, et qui garde quand même la foi. Genèse 37 à 41. Troisième exemple, Moïse, qui se retrouve devant la mer Rouge, infranchissable, avec les Égyptiens derrière. Vous connaissez la suite. Dans Daniel, les trois Hébreux qui survivent à la fournaise, situation impossible aussi. Et enfin, Lazare qui ressuscite. Mais comme il est dit dans la parole, la terre entière ne suffirait pas, enfin, en tout cas la place ne suffirait pas pour mettre tout ce qui s'est passé. Alors moi je vous demande, est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des stratégies pour sortir de là? Alors, il y a la stratégie tout simple de Gédéon, qui au fur et à mesure, d'abord demande un signe, et ensuite continue à discuter avec Dieu. C'est une première stratégie, c'est-à-dire c'est la stratégie de ne pas rompre le dialogue. D'ailleurs, d'autres l'ont fait. Moïse l'a fait. Abraham l'a fait. Discuter. Pas négocier. C'est presque négocier. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais là, aide-moi un peu. Mais une vraie, vraie stratégie, c'est aussi, par exemple, de faire l'inventaire de toutes nos espérances réalisées. Tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et là, on pourrait aussi avoir énormément de témoignages de ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire de se rappeler plutôt de ces choses-là et pas de ce que l'ennemi essaye de nous rappeler. Et dans Romains 15, 13, il y a quelque chose de fondamental à ce propos de ça. Dans Romains 15, 13, peut-être on peut l'afficher. Je ne sais pas si c'est... Non. Alors, Romains 15, 13, voilà. C'est Paul qui dit que Dieu qui donne l'espérance, c'est lui qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. La situation normale, c'est d'être plein d'espérance. Si vous n'êtes pas, et là je vais peut-être être curieux, provocateur, mais je ne crois pas. Si votre espérance ne brille pas comme un diamant, c'est que quelque part, il y a un mensonge qui traîne. Je n'accuse personne, je ne dis pas. Mais méfions-nous, ce que dit Paul là, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. La situation normale, c'est d'être plein d'espérance. Pas plein de réussite. Il y a des circonstances dans la vie. Il y a des moments où, effectivement, on désespère. Mais il faut que l'instant d'après, on se rappelle. On se rappelle une chose, c'est que, quelle que soit la situation, il est capable de la vaincre. Et donc, on peut être plein d'espérance. La deuxième chose, donc pour revenir à ça, juste vous dire, demandez au Saint-Esprit de vous montrer quel est le mensonge qui traîne encore dans votre vie. Et là, c'est une chose toute simple, hein, vous lui parlez. Il n'y a pas besoin d'un décodeur. Deuxième stratégie. Capturer tous les mensonges, toutes les pensées qui ne sont pas des pensées qui sont en adéquation avec cette espérance. Parce que vous avez l'autorité pour les capturer et les mettre sous les pieds de Jésus. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail absolument nécessaire. Dans Jacques, si vous relisez l'épître de Jacques, il y a toute l'histoire de notre rapport avec le comment on en arrive à pécher. Souvent, pécher c'est quoi? C'est manquer le but, hein, c'est pas plus. Mais ça veut dire qu'on a commencé par une pensée, la pensée est devenue une obsession, cette obsession s'est transformée en acte, cet acte nous mène à la mort s'il se répète. Donc, capturer les pensées qui ne vont pas dans ce sens. Là, on peut parler de 2 Corinthiens 10, 5, de Proverbes 23, 7. Et bien sûr, et c'est pour ça que le club, par exemple, des Amis de la Bible existe, c'est pas pour se faire plaisir, c'est tout simplement pour dire que, et plusieurs l'ont dit, c'est que si vous voulez avoir les bonnes pensées, il faut que vous remplissiez de la vérité qui vient de Dieu. Et un des moyens d'avoir cette vérité, c'est de lire sa pensée dans la parole de Dieu. Parce que lui, il va, avec l'aide du Saint-Esprit, vous faire comprendre et vous parler là où vous avez besoin d'entendre quelque chose. Pourquoi certains, en lisant les mêmes passages, comme le disait Christine tout à l'heure, en lisant dans Pain de ce jour, tout à coup, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous sautent à la figure et qui sont pour nous. Alors qu'on lit tous la même chose. Pour certains, oui, ça va parler tel jour, pour d'autres, le lendemain, ou alors c'est tel verset, etc. Et enfin, il faut que vous demandiez à Dieu d'avoir cette foi et cette espérance que dans toute situation, pour toute personne, que vous ayez vraiment les incapacités qu'avait Gédéon et dans des situations impossibles, que le Seigneur a une solution et qu'il veut vous sortir de là. Et enfin, c'est d'avoir des déclarations, parce que je crois qu'il y a une chose que le monde ne sait pas, c'est que nos paroles, elles ont de la force. Ce qu'on dit. Donc, évitez de dire des choses qui vous font plonger. Et je pense là à ceux qui parlent l'alsacien. Je me rappelle d'avoir été tout petit, engueulé par ma mère. Enfin, engueulé, c'est un grand mot, mais disons en tout cas, j'étais tout petit. Et notre voisin, j'allais dans son atelier, et puis c'était un homme vraiment sympa, sauf qu'il n'arrête pas de jurer en alsacien. Et je rentre à la maison, et vous savez, quand les gamins ils savent pas encore bien parler, j'arrêtais pas de répéter ces jurons. Il y en a un qui veut quand même, hein, que j'oserais pas dire là, mais vraiment qui est assez dur, quoi. Parce qu'il proclame carrément en alsacien que Dieu me damne. Je sais pas si vous voyez, je veux dire que. Mais ces paroles-là, elles sont pas en l'air. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est proclamer les vérités de Dieu. Et la première, c'est que, on l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Que le Saint-Esprit vit en nous et qu'il ne nous dit rien qui est désespéré. Rien. Et croyez-moi, on a tous connu des situations désespérées. Plus ou moins graves, plus ou moins... Mais... Et là, j'ai jamais entendu le Saint-Esprit me dire « Jamais tu vas t'en sortir, là. » Troisièmement, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Il n'est pas dit certaines choses concourent, d'autres pas. Non, toute chose. Et enfin, que mon cœur et mon esprit brillent d'une espérance et d'une confiance, d'une joie et d'une attente. Et ça, c'est une demande que vous pouvez faire au Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais qu'on termine ce moment avec trois choses. Je vous ai donné quelques clés. Mais j'aimerais vous dire que cette stratégie, elle passe aussi par des proclamations, on va en faire une inspiration et une prière. Et en termes de proclamation, je vous demanderai de réfléchir à celle que vous pourriez faire en rapport à ce que je vais dire. De dire, par exemple, on peut le dire ensemble si vous voulez, je vais d'abord vous le lire et puis après on peut le dire ensemble. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir les yeux sur les miracles extraordinaires qui ont d'ores et déjà eu lieu dans ma vie. Des occasions que je n'aurais pas suscitées moi-même. Des bénédictions auxquelles je ne m'attendais pas et qui arrivent au temps parfait. Des personnes qui ont croisé ma route juste au bon moment. Quand je constate ce que Dieu a déjà accompli, cela fortifie ma foi par rapport à ce qu'il peut faire à présent. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on va le faire ensemble. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir les yeux sur les miracles extraordinaires qui ont d'ores et déjà eu lieu dans ma vie. Des occasions que je n'aurais pas suscitées moi-même. Des bénédictions auxquelles je ne m'attendais pas et qui arrivent au temps parfait. Des personnes qui ont croisé ma route juste au bon moment, n'est-ce pas? Quand je constate ce que Dieu a déjà accompli, cela fortifie ma foi par rapport à ce qu'il peut faire à présent. Amen. Deuxième chose à faire, mais là vous avez le temps devant vous, tous les jours, c'est une habitude. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu, par la petite voix du Saint-Esprit en vous, ce matin, mais demain, après-demain et tous les jours. Il n'y a pas besoin de plus d'un quart d'heure pour ça par jour. Prenez peut-être un petit carnet et notez ce que Dieu vous a dit, parlez, juste comme ça, peut-être juste la référence, pour venir la relire à un moment ou à un autre. Et enfin, j'aimerais prier avec vous, et prier pour vous, et ça aussi vous pouvez le faire, c'est-à-dire penser tous les jours à proclamer certaines choses. Ça peut être un verset que vous avez reçu, à vous laisser inspirer par la parole de Dieu, et enfin, à prier. Prier, c'est comme la respiration aussi. Voilà. Et je termine en disant, ce matin, Seigneur, je veux t'abandonner toute frustration, toute difficulté, ou tout épuisement. Si je suis comme Gédéon, que je sois le Gédéon de la fin aussi, de celui qui a obéi. Je t'invite à nouveau à rentrer dans ma vie, dans mes projets, dans les desseins que tu as pour moi, quel que soit mon âge. J'ai besoin de ta direction, de ton aide et même de miracles dans ma situation. Seigneur, je m'attends à toi.